La porteuse de pain, deuxième partie, chapitres 61 à 66.
Que puis-je vous répondre ? Répliqua l'ouvrière. Je n'ai ni le droit ni la volonté de disposer du cœur de Lucien. Vous voulez le garder alors ? Vous voulez me le prendre ? Fit Mary d'un ton qui n'était plus suppliant mais farouche. « Je veux ce que Lucien voudra. Encore une fois, je le laisse libre. » La fille du millionnaire se redressa d'un bond, les lèvres crispées, les joues creusées par la colère. « Alors, décidément, vous êtes sans pitié, » reprit-elle. « Décidément, vous refusez mes offres. »
« Je vous plains de toute mon âme, mademoiselle, mais je l'ai déjà dit, mon cœur n'est point à vendre. »
Mary porta ses deux mains à son front avec un geste de folle. « Je me vengerai, » fit-elle ensuite, et d'un pas raide, automatique en quelque sorte, elle quitta la chambre de sa rivale. Lucie, restée seule, murmura en joignant les mains.
« Quoi qu'elle fasse, mon Dieu, quoi qu'elle essaie contre moi, pardonnez-le-lui. »
Elle souffre, et la souffrance égare sa raison. Ah, des pressentiments me hantaient lorsque Lucien a dû se présenter dans la maison de M. Armand. Un rêve de mauvais augure m'avait prévenu. Mes pressentiments se réalisent. Mon bonheur est menacé. Un frisson courut sur la chair de Lucie, puis après un silence, elle répéta.
Menacé ? Non, non, le craindre seulement serait faire injure à Lucien. Ce serait le croire capable de ne plus m'aimer. Non, je n'ai rien à redouter. J'ai foi dans l'avenir, j'ai foi dans l'amour de Lucien.
En ce moment, la porte de la mansarde s'ouvrit et Jeanne Fortier, la porteuse de pain, parut. Elle vit la jeune fille très pâle, violemment agitée, les paupières rougies, le visage défait, et courut à elle en s'écriant
« Mignonne, chère mignonne, qu'avez-vous ? Vos yeux sont pleins de larmes, que s'est-il donc passé ?»
Lucie se jeta dans les bras de maman Lison, et ses sanglots éclatèrent comme un peu auparavant avaient éclaté ceux de Mary.
« Pourquoi ce chagrin ? Pourquoi ces pleurs ?»
poursuivit l'évadé de la maison centrale.
« Ah, maman Lison !» « Maman Lison, » balbutia Lucie, « on veut me prendre l'amour de Lucien. »«
Vous prendre l'amour de Lucien ?» répliqua la porteuse de pain stupéfaite. « Est-ce que M. Lucien ne vous aime pas de toute son âme ? Est-ce que vous le croyez capable de se parjurer ?»«
Non, certes, non, je ne le crois pas. »«
Eh bien, mais on essaiera de le détourner de moi. On lui offrira une fortune, une grande fortune. »« Qui donc fera cela ? Qui donc est la cause de vos larmes ?
Celle que je croyais la meilleure des créatures.
Mademoiselle Mary Armand ?
Oui, maman Lison.
Elle est venue ici ?
Elle y était encore il y a quelques minutes. Vous auriez pu la rencontrer dans l'escalier ?
Et que venait-elle faire chez vous ?
M'offrir une fortune, 300 000 francs, à la condition que je quitterais Paris, la France, et que je lui laisserais le cœur de Lucien.
Jeanne Fortier haussa les épaules.
« Et c'est cela qui vous effraie ? » demanda-t-elle ensuite.
« N'y a-t-il pas de quoi m'effrayer ? » ?»«
Mais non, mignonne, 100 fois non !
L'acte de cette jeune fille est un acte de folie pure. Vous n'avez rien à craindre d'elle. Je connais M. Lucien depuis moins longtemps que vous, mais je le connais assez pour le bien juger. Entre l'amour et la fortune, il n'hésitera point, je vous en réponds. Donc ne vous mettez pas de chagrin en tête. »
Mais en refusant les propositions qui lui sont faites, il perdra son emploi.
Eh bien, il en trouvera un autre.
Son mérite est connu maintenant, et les offres de place ne lui manqueront pas.
Ainsi, point de chagrin, mignonne, et confiance.
Oh, que je voudrais être à dimanche pour voir Lucien, pour lui tout dire, et qu'il me rassure.
Dans 3 jours ce sera dimanche, et 3 jours passent vite. Vous le verrez, et il vous rassurera.
Mais d'ici là, ne perdons point courage, ne nous forgeons point de chimères. Au revoir, mignonne.
Vous partez, maman Lison ?
Oui, j'ai fini ma tournée et je vais à la boulangerie rendre mes comptes.
Reviendrez-vous dans la journée ?
Non, j'ai des courses à faire pour mon propre compte.
À ce soir, alors ?
Oui, chère mignonne, à ce soir.
Puis Jeanne Fortier embrassa Lucie et la laissa seule.
Nous avons quitté Lucien Labroux au moment où il tombait sur un siège, épouvanté de la révélation terrible qui venait de lui être faite.
S'il fallait en croire le millionnaire, Lucie était fille de Jeanne Fortier, la misérable créature, condamnée à une détention perpétuelle pour avoir assassiné Jules Labroux après avoir incendié l'usine et dévalisé la caisse. Jeanne Fortier l'avait fait orphelin, lui, Lucien. Il l'avait ruiné et il aimait la fille de cette femme. Il se produisait là quelque chose de monstrueux, en effet, si c'était vrai. Mais était-ce vrai? Lucien ne pouvait l'admettre. Après la première minute de défaillance, il dompta sa terreur et son émotion. « C'est une calomnie !» s'écria-t-il. Paul Armand sourit. Ce sourire fit passer un frisson dans les veines du jeune homme. Cependant, il répéta. « C'est une calomnie, oui, monsieur, je le soutiens. »« Non, » répondit le millionnaire, « c'est une vérité absolue. » « Prouvez-le donc. Vous avez parlé de preuves, monsieur. Je les attends. » Jacques Garraud tira de sa poche un portefeuille. « Je vous ai dit, reprit-il, que celle que vous croyez aimée est inscrite sur le registre de l'hospice sous le numéro matricule 9. »«
Oui, monsieur, je savais cela.
Lucie elle-même me l'avait appris. » »«
Eh bien, refuserez-vous d'ajouter foi au procès-verbal de dépôt de Lucie aux enfants trouvés ?»«
Procès-verbal relatant le nom de la mère et celui de la nourrice, qui, après la condamnation de la mère, a déposé l'enfant ?»«
Cette pièce est entre vos mains ?»«
Oui. Authentique ?»«
Certes.
Signée il y a 21 ans par le maire de Joigny et contresignée il y a quelques jours par qui de droit ?»«
Vous déclarerez-vous convaincu quand cette preuve sera sous vos yeux ?»«
Montrez-la-moi d'abord, » fit Lucien d'une voix étranglée. Paul Armand ouvrit son portefeuille, en retira le procès-verbal et le présenta au jeune homme, qui le lui arracha plutôt qu'il ne le prit, et le lut fiévreusement. À mesure qu'il avançait dans cette lecture, son visage offrait une expression effrayante de stupeur et de désespoir. Le millionnaire n'avait pas menti. Douter devenait impossible. Le terrible papier s'échappa de la main tremblante de Lucien.
« C'est vrai, » balbutia-t-il avec accablement. « Lucie est la fille de Jeanne Fortier. »
« De Jeanne Fortier qui a tué votre père !» ajouta Jacques Garraud. Lucien, un instant anéanti, écrasé, releva la tête.
« Rien ne prouve le crime, après tout » répliqua-t-il brusquement.
« La justice a prononcé... La justice se trompe, souvent. Et je crois à l'innocence de Jeanne Fortier. Je vous l'ai déjà dit.
Vous y croyez, soit, mais jusqu'au jour où sa réhabilitation solennelle serait prononcée, si elle pouvait l'être jamais... Jeanne Fortier est coupable. Allez demander à l'évadé de Clermont des preuves de son innocence. Qu'elle les fournisse, qu'elle les fasse admettre par les magistrats. Et alors vous aurez le droit d'aimer Lucie et de l'épouser. Mais jusque-là, Lucie restera la fille de l'assassin de votre père.
Mon Dieu, balbutia Lucien désespéré.
Vous voyez bien que j'avais raison, poursuivit Jacques Garraud. Vous voyez bien que sans être infâme, le fils de la victime ne peut donner son nom à la fille du meurtrier.
Oh, pitié, taisez-vous, monsieur.
Pourquoi ?
Vous me torturez l'âme, vous me brisez le cœur.
Armez-vous de courage, renoncez à une impossible union que personne ne vous pardonnerait dans le monde des honnêtes gens et qui attirerait sur vous le mépris général.
Lucie Fortier ne peut plus, ne doit plus exister pour vous.
Vous voilà libre.
Sauvez ma fille.
Mais je n'ai point d'amour pour Mademoiselle Mary.
« Qu'importe. La tendresse qui manque aujourd'hui viendra plus tard.
D'ailleurs, combien de mariages se font sans amour? Et ce ne sont pas les moins heureux. »«
Monsieur, monsieur !» bégaya Lucien affolé de douleur. « Vous ne comprenez donc pas de quel coup terrible vous me frappez? Ayez pitié de moi. J'avais mis ma vie entière dans cette union projetée, et tout s'écroule. Je m'étais endormi dans un beau rêve. Je me réveille en face d'une réalité terrifiante. Laissez-moi respirer. Laissez-moi pleurer. Laissez-moi souffrir. »
Et le jeune homme, cachant son visage dans ses mains, éclata en sanglots.
Assurément, je vous plains, répliqua Jacques Garraud. Mais en même temps, je vous exhorte au courage. On ne peut lutter contre les faits accomplis. Donc, il est sage de les accepter bravement. Je viens de vous rendre un immense service. Je vous ai sauvé du déshonneur qu'une indigne alliance aurait fait rejaillir sur vous. En échange de ce service, sauvez ma fille. C'est le bonheur que je vous offre.
Et si je ne peux pas accepter ? Les traits du faux Paul Armand se contractèrent. Sa figure prit une expression presque farouche.
« Pourquoi ne le pourriez-vous pas ? »
s'écria-t-il. « En refusant, vous tueriez Mary, cet enfant qui vous aime, qui vous adore ?»«
Non, non, vous ne ferez point cela !» ajouta-t-il en tendant vers Lucien ses mains suppliantes.
« Ce serait un crime ! Vous auriez à vous accuser sans cesse de la mort de Mary !»«
Tout à l'heure, j'ai été cruel peut-être en brisant vos rêves, en déchirant votre cœur, en vous montrant l'abîme dans lequel vous alliez à votre insu vous précipiter. Mais vous ne pouvez m'en vouloir !» J'ai agi comme le chirurgien qui porte le fer et le feu au fond de la blessure afin de la guérir. C'est de la reconnaissance que vous me devez.
Et cette reconnaissance, je l'éprouve, monsieur, car mon chagrin ne me rend point injuste.
C'est vrai, l'abîme était ouvert devant moi. Vous me l'avez montré. Je vous en remercie.
En même temps, le jeune homme tendait la main au misérable qui la prit et la serra dans les siennes, tandis qu'une expression de triomphe rayonnait sur sa figure. Il se croyait déjà victorieux.
Lucien continua. « Mais vous devez le comprendre. La blessure est trop profonde pour se cicatriser brusquement. Elle saignera longtemps, sans doute. Je vous prouverai par tous les moyens en mon pouvoir la reconnaissance que je vous dois. Mais je ne saurais mentir, composer mon visage, modifier l'expression de ma voix. Priez donc Mademoiselle Mary de me pardonner si pendant un certain temps je ne profite pas des invitations qu'elle a bien voulu m'adresser. À quoi bon lui montrer une figure assombrie qui ne pourrait être pour elle qu'un sujet de chagrin ? Je ne veux me présenter devant elle que les lèvres souriantes, si jamais le sourire revient à mes lèvres. Donc, il faut attendre. Mais ce sont ces alternatives d'espoir et de déception qui tuent Mary. C'est l'attente qui la brise, murmura le millionnaire.
Lucien ramassa sur le parquet le procès-verbal qu'un instant auparavant il avait laissé tomber, et il le présenta à Paul Armand.
« Montrez-lui ceci, monsieur, » fit-il. « Mademoiselle Mary comprendra que je ne puis épouser la fille de l'assassin de mon père. » Évidemment, ces paroles dans l'esprit de Lucien ne pouvaient s'appliquer qu'à la fille de Jeanne Fortier. Mais le double sens apparut terrible, effrayant au véritable meurtrier qui ne put s'empêcher de frissonner et courba la tête.
Ainsi, dit-il d'une voix tremblante, au bout de quelques secondes, mes raisonnements, mes prières, ne pourront changer votre détermination et hâter le bonheur de ma fille.
Il me serait impossible de passer outre, répondit Lucien. Je vous en prie, n'insistez pas. Je sollicite de vous quelques jours pour me calmer et pour réfléchir.
Quelques jours ? Répéta le millionnaire. Eh bien, soit. Mais c'est à Mary qu'il faudra dire cela, et non à moi. Mary refuserait de me croire.
« Eh bien, monsieur, je le lui dirai, » fit Lucien, prenant une brusque détermination.
« Quand ? Ce soir même. Je vous accompagnerai rue Murillo, et j'aurai l'honneur de causer avec Mademoiselle Armand. »
« Je vous remercie, mon cher enfant, » fit le millionnaire, « et je mets tout mon espoir en vous. »
« Voulez-vous me permettre de garder ce procès-verbal pendant 24 heures ?» demanda Lucien.
« Il est à votre disposition. Gardez le temps que bon vous semblera.
Voulez-vous, en outre, m'autoriser à m'absenter aujourd'hui de l'usine ?
Je vous y autorise, mais prenons rendez-vous pour ce soir. À 6h30 précise, j'arriverai à votre hôtel.
Vous dînerez avec nous ?
J'aurai cet honneur.
C'est entendu, mon cher enfant. Je vous attendrai, ou, pour mieux dire, nous vous attendrons.
Lucien sortit, le cœur gonflé, du cabinet de l'industriel, prévint le contremaître qu'il s'absentait et gagna le tramway pour rentrer à Paris. S'isolant alors dans ses pensées, il envisagea la situation sous toutes ses faces.
« L'évidence s'impose, » se dit-il.
« Paul Armand vient de m'arrêter sur la lèvre du gouffre où j'allais m'engloutir. Lucie est bien la fille de Jeanne Fortier, de cette femme condamnée pour avoir tué mon père. Je doute que Jeanne Fortier soit coupable, mais Paul Armand a raison. Il y a 100 preuves de son crime, et pas une de son innocence. Moi-même, je ne puis que douter. Si je poursuivais, malgré tout, mon projet d'épouser Lucie, je commettrais aux yeux du monde une action infâme, en offensant une mémoire chère et sacrée. Paul Armand, irrité contre moi, divulguerait ce secret de honte. Un tollé général s'élèverait pour me flétrir. Lucie est innocente, la pauvre enfant, mais elle porte un nom maudit, un nom taché du sang de mon père. L'union rêvée est impossible. Elle ne se fera pas. Ah, pauvre Lucie, dont je vais briser le cœur en même temps que le mien. Adieu, mes belles espérances. Adieu, mon amour. Adieu, mon avenir. Adieu, tout. Et Lucien, la tête penchée sur sa poitrine, ne lutta point contre la douleur qui l'écrasait. Arrivé à Paris, place de l'Étoile, il prit une voiture et se fit conduire au quai Bourbon. En descendant du fiacre, il jeta un coup d'œil sur les fenêtres de Lucie. Elles étaient closes, l'une et l'autre. Il éprouva une émotion poignante et singulièrement pénible en face de la maison où il avait fait de si beaux rêves. Deux grosses larmes roulèrent sur ses joues. Il les essuya d'une main fiévreuse et entra sous la voûte. La porte de la loge était ouverte. « Ah, c'est vous, monsieur Lucien !» s'écria la concierge. « Vous tombez bien mal, monsieur Lucien !»« Pourquoi donc ?»« Mademoiselle Lucie vient de sortir à l'instant pour reporter de l'ouvrage chez sa patronne. »« Ah ! » fit Lucien. « Doit-elle rester longtemps dehors ?»«
Elle ne l'a pas dit. »
« Maman Lison est-elle chez elle ?»«
Non, monsieur Lucien, maman Lison n'est point rentrée ce matin déjeuner. »
Il paraît qu'elle avait un gros travail à faire à sa boulangerie. « Merci, ma chère dame, je m'en vais. »«
Vous ne voulez pas entrer dans la loge et attendre mademoiselle Lucie ?»«
Non, je suis pressée. »«
Qu'est-ce qu'il faudra dire à mademoiselle Lucie de votre part ?»«
Que je suis venue. » »«
Voilà tout. »
Et le jeune homme se retira. Tout en le suivant du regard à travers la cour, la portière murmura. « Quel drôle d'air il a aujourd'hui. Il était si gentil il n'y a pas longtemps. »«
Ah, voilà. Il est en train de faire fortune, de trancher dans le grand. Et les grandeurs, ça change vite un homme. »
Puis, après avoir formulé cette réflexion philosophique, la bonne dame rentra dans sa loge. Lucien était remonté en voiture. Il se fit conduire à la boulangerie de la rue Dauphine. En y arrivant, il vit sur le seuil la personne qu'il venait chercher. Maman Lison venait d'achever son travail d'ordre intérieur et causait avec une pratique. Lucien mit pied à terre. En l'apercevant, la porteuse de pain eut comme un pressentiment de malheur. Elle alla vivement à sa rencontre et, prise d'un tremblement soudain, balbutia.
« Vous, monsieur Lucien, est-ce que vous venez pour me parler ?»«
Oui, maman Lison, j'arrive du quai Bourbon. »
« Vous avez vu mademoiselle Lucie ?»«
Elle était absente. »«
Vous aviez quelque chose à lui dire ?»«
Oui, et c'est à vous que je le dirai. »«
À moi ?» répéta la porteuse de pain surprise.
« Oui. Avez-vous terminé votre travail ? Pouvez-vous me donner une heure ?»«
Parfaitement, monsieur Lucien, » répondit Jeanne, dont l'inquiétude redoublait.
« Je suis libre. Voulez-vous que nous allions chez moi ?» Le jeune homme secoua la tête.
« Non, répliqua-t-il, chez moi plutôt.
Mais qu'avez-vous donc ? Vous paraissez tout bouleversé.
Ce que j'ai, vous allez le savoir. Montez dans ma voiture. »
« Tout de suite, » fit la porteuse de pain. « Je préviens le patron que je sors et je vous rejoins. »
Elle disparut au fond de la boutique.
Au bout d'une minute, elle revint et s'installa dans le fiacre à côté de Lucien. Ce dernier donna l'adresse au cocher. La voiture roula. Jeanne alors voulut le questionner, mais le jeune homme lui coupa la parole. « Pas ici, maman Lison, » lui dit-il. « Ce que j'ai à vous apprendre est grave. Attendez pour m'interroger que nous soyons chez moi. » Jeanne Fortier, dont l'inquiétude devenait de l'angoisse, n'insista pas et, silencieuse, s'abandonna à ses réflexions. Après ce qui s'était passé entre mademoiselle Armand et l'ouvrière, elle pensait bien qu'il allait être question de Lucie. Elle n'en pouvait douter. Mais de quelle nature serait l'entretien que Lucien allait avoir avec elle ? Cela, elle ne le soupçonnait même pas, et elle éprouvait une appréhension profonde, une terreur instinctive. Enfin, la voiture s'arrêta. Lucien descendit, fit descendre Jeanne, et bientôt ils se trouvèrent en présence l'un de l'autre dans le très modeste appartement qu'occupait le fils de Jules Labroux. Le jeune homme se laissa tomber sur une chaise, et ses sanglots longtemps contenus éclatèrent. Jeanne fut effrayée de cette explosion de douleur.
« Monsieur Lucien, » s'écria-t-elle, « voilà des larmes qui m'en disent plus que de longs discours. Il s'agit de Lucie, n'est-ce pas ? Vous allez me parler d'elle ?»«
Oui, » répondit Lucien du geste plutôt que des lèvres. Ah, depuis ce matin, depuis la visite de Mademoiselle Armand, je pressentais quelque malheur. »
Le fils de Jules Labroux regarda Jeanne d'un air effaré.
« Mademoiselle Armand ? » répéta-t-il.
« Ignorez-vous qu'elle est venue ce matin chez Lucie ?»«
Je l'ignorais. »«
Ignorez-vous aussi que Mademoiselle Armand vous aime ?»«
Malheureusement, non, je ne l'ignore pas. Depuis trop longtemps déjà, je le sais.
Mais quel motif l'amenait au Quai Bourbon ?»«
Elle est jalouse jusqu'à l'affolement. Elle venait d'offrir à Lucie une somme de 300 000 francs, et plus encore, si elle consentait à vous quitter, à vous oublier, à s'éloigner de Paris et de la France. »
« Elle a fait cela ?» murmura Lucien stupéfait. « Elle a osé proposer à Lucie un semblable marché ?»«
Oui, elle a prié, supplié. Elle s'est mise aux genoux de celle que vous aimez en implorant sa pitié, en lui demandant de la laisser vivre, ajoutant que si vous ne consentiez point à l'aimer, il ne lui restait qu'à mourir. »
Lucie s'est révoltée. Pouvait-elle faire autrement ?
N'êtes-vous pas son bonheur et sa vie à elle aussi ?
Si elle avait seulement la pensée que vous songez à vous éloigner d'elle, la pauvre enfant ne survivrait point au désespoir. »
Lucien, entendant la porteuse de pain parler ainsi, se demandait s'il allait avoir le courage de lui révéler le secret terrible. Pendant quelques secondes, il resta muet.
« Alors, reprit Jeanne, Mademoiselle Armand, n'obtenant point ce qu'elle voulait, est devenue menaçante. Elle a quitté Lucie en disant qu'elle se vengerait. »
Elle n'est que trop vengée déjà, se dit Lucien.
Que pensez-vous de cette démarche ? Demanda Jeanne Fortier.
Je pense que la jalousie est mauvaise conseillère, et qu'il faut pardonner beaucoup à ceux qu'affole la fièvre d'amour.
Cette réponse causa une stupeur profonde à Jeanne.
Ainsi vous ne blâmez point Mademoiselle Armand ? S'écria-t-elle.
Je la blâme, et tout en la blâmant, je la trouve bien à plaindre.
Est-ce que Lucie n'est pas à plaindre aussi, elle ?
Est-ce que Mademoiselle Armand n'a point torturé son cœur et fait entrer dans son âme la jalousie, le soupçon, l'angoisse ?
Si vous l'aviez vue comme je l'ai vue, sanglotant, la tête égarée, vous auriez compris qu'elle souffre autant qu'on peut souffrir.
Je la plains de toute mon âme, maman Lison.
Ne faites-vous que de la plaindre ? Ne trouvez-vous pas indigne la conduite de cette fille millionnaire qui croit que le cœur se vend, que l'amour s'achète ?
« Monsieur Lucien, votre froideur m'épouvante. J'ai peur de vous entendre me dire dans un instant que vous n'aimez plus Lucie, que ces gens-là vous ont parlé d'alliance, de fortune, que les millions vous grisent et vous font oublier la malheureuse enfant qui ne vit que pour vous. »
« Et si cela arrivait ?» demanda Lucien d'une voix tremblante. La porteuse de pain pâlit affreusement.
« Vous en avez donc la pensée ? » répliqua-t-elle avec violence. Le jeune homme poursuivit. Si je ne devais jamais revoir Lucie.
Ah, vous ne parlez pas sérieusement. Ne plus revoir Lucie, ce serait horrible. Songez que la mignonne vous adore.
Elle en mourrait, non, 100 fois non, vous ne ferez pas cela.
Si l'honneur me forçait à le faire.
L'honneur consiste à tenir sa parole. Et vous avez juré à Lucie de l'épouser.
S'il existait à cette heure entre nous une barrière infranchissable.
C'est impossible, cela.
Ce qui se pouvait hier se peut encore aujourd'hui.
Est-ce donc la fortune de M. Armand qui vous étourdit au point de vous faire perdre la tête ?
Des révélations m'ont été faites et m'ont indiqué mon devoir.
Allez-vous insulter Lucie en la soupçonnant ?
La soupçonner ? Que Dieu m'en garde !
Mais enfin, que vous a-t-on dit contre elle ?
Par quelle calomnie odieuse de méchantes gens ont-ils élevé entre Lucie et vous cette barrière dont vous me parlez ?
Qu'ont inventé Paul Armand et sa fille ? Oseriez-vous me répéter leurs mensonges infâmes ?
Ils n'ont rien inventé, et ils n'ont point menti. Je vous jure que la barrière est infranchissable. Entre Lucie et moi, il y a du sang.
Du sang ? Répéta Jeanne Fortier, pétrifiée par la stupeur.
Oui, j'aime Lucie autant que je l'aimais, et plus encore peut-être. En me séparant d'elle, je ne subis aucune influence, je ne cède à aucune considération d'orgueil. À aucun désir de fortune. Je n'écoute que la voix de l'honneur. Hélas, cette voix me défend d'épouser Lucie.
Mais pourquoi enfin, pourquoi ?
Parce que je ne peux donner mon nom à la fille de l'assassin de mon père. En entendant ces mots, Jeanne poussa un cri. D'un mouvement brusque, elle appuya ses deux mains sur son cœur comme pour l'empêcher de se rompre. Elle chancelait,
Lucien la regardait, ne comprenait pas l'effet foudroyant que ses dernières paroles venaient de produire. Au bout d'un instant, la porteuse de pain sembla se calmer.
« Que venez-vous de dire ? »
demanda-t-elle d'une voix à peine distincte.
« J'ai mal compris, sans doute. Prétendez-vous que Lucie soit fille de la femme condamnée jadis pour avoir assassiné votre père ?»«
La fille de Jeanne Fortier, oui. »
« La fille de Jeanne Fortier ?»
s'écria l'évadé de Clermont.
« Sa fille, elle, Lucie, sa fille !»
Jeanne paraissait frappée de folie. Son secret allait lui échapper. Elle allait dire « Ma fille !» La raison lui revint assez vite pour l'empêcher de livrer le mystère de sa vie au fils de Jules Labroux, de l'homme qu'on l'accusait d'avoir assassiné. « Voyons, maman Lison, qu'avez-vous ? » demanda Lucien, stupéfait d'une si violente émotion, quoiqu'il connût la grande amitié que la brave femme portait à Lucie.
« Ce que j'ai, » répondit Jeanne en hésitant et en cherchant ses mots pour ne point se trahir. « Je n'ai rien, mais la nouvelle que vous venez de m'apprendre m'a causé une telle surprise qu'il m'a semblé sentir ma tête s'égarer. Maintenant encore, je puis à peine croire ce que je viens d'entendre. Lucie, la fille de Jeanne Fortier ? « Est-ce possible ? Comment le savez-vous ? En avez-vous la preuve ?
J'en ai la preuve authentique, indiscutable.
Cette preuve, vous l'avez sur vous ?
Oui.
Montrez-la-moi, montrez-la-moi, vite. La voici. »
Lucien tendit à Jeanne le procès-verbal de dépôt de la petite Lucie à l'hospice des enfants trouvés, procès-verbal que lui-même avait reçu de Paul Armand. Jeanne le lui arracha des mains et le lut avidement. En même temps, son visage pâle prenait une expression indéfinissable.
« C'est ma fille, c'est bien ma fille !» se disait-elle tout bas. J'en avais le pressentiment. Voilà donc pourquoi je l'aimais à donner tout mon sang pour elle. Et je ne puis rien dire, rien faire. Il faut que je me taise. Je suis impuissante pour la sauver.
« Eh bien, êtes-vous convaincue ?» demanda Lucien. « L'évidence est là, vous ne pouvez le nier. » « Oui.
« C'est vrai, » balbutia Jeanne, que la joie et la douleur suffoquaient à la fois. « Lucie est bien la fille de Jeanne Fortier, la condamnée. Mais si sa mère a commis des crimes, en est-elle responsable ? Doit-elle être châtiée pour une faute qui n'est pas la sienne ? N'échappera-t-elle point à l'héritage de honte imméritée ? Il serait noble et grand de lui tendre la main. Il serait cruel de l'abandonner. »
« Lui tendre la main ?» s'écria le fils de Jules Labroux.
« Dieu m'est témoin que je le voudrais, mais je ne le peux pas.
Pourquoi ? » demanda Jeanne avec fièvre.
« Sa mère a tué mon père, comprenez donc cela ? »
« Je le comprends, oui, c'est horrible si c'est vrai.
Mais est-ce vrai ? Vous-même, je vous ai entendu le dire et le répéter, vous croyez la mère innocente ? »
« Je l'ai cru, je le crois encore.
Eh bien ? »
Le doute n'est pas la certitude, et ma croyance n'est point une preuve. Si je voyais Jeanne Fortier, je lui dirais « La justice humaine n'est pas infaillible, et nombreuses sont ses erreurs. Vous aviez été condamné, vous pouviez n'être pas coupable. Démontrez-moi votre innocence, soyez mon guide au milieu des ténèbres, et je prendrai votre cause en main, je consacrerai ma vie à obtenir votre réhabilitation. Je le ferai surtout pour votre fille que j'aime. »
Au cours du procès, Jeanne Fortier affirmait avoir eu en sa possession une lettre écrite par le contremaître Jacques Garot, et prouvant que lui seul est l'auteur de tous les crimes commis à Alfortville. C'est cette lettre qu'il faudrait retrouver à tout prix. Jeanne me donnerait des indices pour la chercher, pour suivre la piste de Jacques Garot, qui sans doute est vivant, et qui peut-être est heureux et riche sous un nom d'emprunt. Une fois que je tiendrai cet homme, je me fais fort de lui arracher la preuve de l'innocence de Jeanne. Mais jusque-là, je douterai toujours, et le doute m'empêchera de donner mon nom à la fille de la condamnée. »
Pendant un instant, la malheureuse mère, en entendant parler Lucien, eut l'envie de lui crier « Mais Jeanne Fortier, c'est moi !» La réflexion l'arrêta cette fois encore. À quoi servirait un aveu ? Cette preuve dont parlait Lucien, cette lettre, elle la croyait brûlée, nous le savons. Quant à Jacques Garot, si véritablement il avait passé sain et sauf, au milieu des flammes, qu'était-il devenu ? Où le chercher ? Où le trouver ?
Depuis 21 ans, il était mort peut-être. Donc, Jeanne ne pouvait que répéter « Je suis innocente, je le jure. »
À quoi bon?
Aujourd'hui, comme au jour du jugement, tout l'écrasait. Ainsi, la pauvre Lucie est condamnée, fit-elle avec des sanglots dans la voix. La honte de sa mère fera son malheur. Abandonnée aujourd'hui, elle sera sans doute oubliée demain. C'est bien cruel, et c'est bien injuste. Mais je ne vous adresse aucun reproche. Je comprends que vous ne pouvez unir votre nom sans tache à son nom déshonoré.
Le monde ne me le pardonnerait pas, répliqua Lucien. Le monde me traiterait de fils dénaturé.
Comment saurait-il votre secret?
On le lui révélerait bien vite.
Qui donc?
Les gens ayant un intérêt à se venger de Lucie et de moi.
Le millionnaire Armand et sa fille, n'est-ce pas? Ils vous ont menacé de cela, peut-être?
Le père m'en a menacé, c'est vrai. Et il le ferait comme il l'a dit. Cet homme veut que vous sauviez la vie de son enfant. Pour cela, il faut sacrifier l'enfant de Jeanne Fortier.
Que lui importe? Sa fille avant tout. Mais pourquoi m'avez-vous amené ici?
Est-ce pour me charger d'apprendre à Lucie qu'elle ne doit songer à sa mère qu'avec horreur, avec haine?
C'est pour vous prier de lui faire comprendre que mon honneur creuse entre nous un abîme.
Et vous croyez, répliqua Jeanne violemment, que je vais révéler à Lucie quel est le sang qui coule dans ses veines? Vous voulez qu'aux douleurs de l'abandon, j'ajoute la flétrissure, la honte?
Ah, ne comptez pas sur moi pour cela, monsieur Lucien, je n'en aurai jamais le courage.
Maman Lison, il ne faut pourtant pas laisser à Lucie un espoir qui la ferait plus tard souffrir davantage.
La porteuse de pain sentit les sanglots l'étouffer. Elle ne répondit pas un mot et se dirigea vers la porte.
« Maman Lison !» répéta le jeune homme en allant à elle et en lui prenant la main.
Jeanne retira vivement cette main.
« Adieu, monsieur Labrou, »
fit-elle.
« Adieu. »
Et elle s'élança dehors sans qu'il fût possible à Lucien de la retenir.
« Pauvre Lucie » murmura-t-il en se laissant tomber sur un fauteuil. « Pauvre enfant bien-aimé, pourquoi faut-il que tu sois la fille de Jeanne Fortier ?»
Pendant longtemps, il resta pensif, absorbé dans sa douleur, ne s'apercevant même pas que de grosses larmes inondaient ses joues. Tout à coup, il se leva, prit le procès-verbal que la porteuse de pain avait posé sur une table, le plia, le mit dans sa poche et, regagnant le fiacre qui l'attendait en bas, se fit conduire chez Paul Armand. Une fois sortie de chez Lucien, Jeanne donna un libre cours à ses pleurs. Elle descendit l'escalier comme une trombe et se mit à marcher dans les rues d'un pas rapide et saccadé, ayant l'air d'une folle, heurtant les piétons sur son passage. Sans cesse et presque à haute voix, elle répétait ces mots. « Ma fille, Lucie est ma fille, j'ai retrouvé ma fille !» Peu à peu, le grand air la calma. La fièvre qui brûlait son sang et faisait battre ses tempes s'apaisa. Arrivée en face de la gare du Havre, elle prit une voiture pour aller au quai Bourbon. « Ainsi, se dit-elle, Dieu m'a conduite auprès de l'un de mes enfants, auprès de Lucie. Je la voyais chaque jour, et sans savoir pourquoi, chaque jour je l'aimais davantage. Elle était heureuse, je me sentais heureuse de son bonheur. Et voilà qu'au moment où je découvre qu'elle est ma fille, le malheur la frappe. Quelle fatalité a donc permis qu'elle se prie d'amour pour le fils de l'homme qu'on m'accuse d'avoir assassiné. La honte du crime que je n'ai pas commis, l'opprobre de la condamnation injuste que j'ai subie, rejaillit sur mon enfant. Et je ne pourrai rien dire au fils de Jules Labrou. Je ne pourrai crier à Lucie « Je suis ta mère !» Car aussitôt je devrais ajouter « C'est parce que je suis ta mère que ton fiancé t'abandonne. C'est parce que je suis ta mère qu'il te faudra souffrir et pleurer. Ah, c'est horrible. Et c'est moi que Lucien a choisi pour dire à Lucie « Tu aimes. » Et tu as mis ta vie entière dans ton amour. Eh bien, chasse de ton cœur cet amour sans espoir. Fille d'une mère infâme, tu ne saurais porter le nom d'un honnête homme. Aurais-je jamais le courage de lui parler ainsi? Après m'avoir entendu, si elle allait maudire sa mère. Non, non, je ne lui dirai pas ces choses. Lucien ne reviendra plus. Elle sera inquiète, tourmentée, mais je ne lui dirai rien. Elle souffrira cruellement. Mais je serai près d'elle pour la consoler, pour la soigner,
pour la guérir. Elle ne mourra pas d'amour, ma Lucie. J'ai bien pu, moi, ne pas mourir de honte. »
La voiture s'arrêta après avoir parcouru l'espace séparant la rue Saint-Lazare du quai Bourbon. Jeanne descendit, paya le cocher et entra dans la maison. Elle avait hâte d'embrasser sa fille. La concierge l'arrêta au passage par ces mots.
« Dites donc, maman Lison, notre ancien locataire, monsieur Lucien, est venu vous demander. »
« Ah ? » fit la porteuse de pain en feignant la surprise.
« Est-ce que vous ne l'avez pas vu à votre boulangerie ? Il devait y aller. »
« Non, je ne l'ai pas vu. »
Bien sûr, ce qu'il avait à me dire n'était guère pressé. Je lui ai trouvé l'air tout drôle.
C'est qu'il était préoccupé. Il a tant de travail. « Mademoiselle Lucie est-elle là-haut ? »
« Il y a longtemps qu'elle est rentrée. »«
Je monte. » Jeanne gravit l'escalier avec une invraisemblable rapidité. En atteignant le carré du dernier étage, en voyant la clé sur la serrure de la porte de Lucie, la pauvre femme s'arrêta, brisée par une émotion terrible. Sa fille était là. Elle allait la voir, l'embrasser. Mais il faudrait rester muette auprès d'elle. Il faudrait demeurer pour elle, maman Lison, la porteuse de pain. Jeanne mit la main sur la serrure, fit jouer la clé et franchit le seuil. Lucie travaillait. Elle tourna la tête vers la porte. La veuve de Pierre Fortier faisait des efforts inouïs pour ne pas se trahir, pour ne point crier à la jeune fille en lui ouvrant ses bras. « Viens embrasser ta mère !» Elle eut le courage d'imposer silence à sa tendresse maternelle. Elle eut la force de paraître calme.
« C'est vous, maman Lison ?» dit Lucie en lui souriant.
« Oui, c'est moi, mignonne. C'est moi, chère enfant. C'est moi, ma fille chérie. » La porteuse de pain embrassa l'ouvrière avec effusion, puis ajouta «
Vous êtes sortie, mignonne ?»«
Oui, je suis allée chez madame Augustine, reporter de l'ouvrage, mais je le regrette. »«
Vous le regrettez, mignonne ?» répéta Jeanne.
« Oui, répondit Lucie.
« Pourquoi ?»«
Parce que Lucien est venu pendant mon absence. »
« C'est ce que la concierge vient de m'apprendre.
Vous ne l'avez pas vu, maman Lison ?»
Jeanne affermit de son mieux sa voix pour répliquer « Non, je ne l'ai pas vu. »
La concierge m'a dit qu'il paraissait tout triste.
Elle se sera figuré cela.
Peut-être, mais si elle avait bien vu cependant. « Maman Lison, j'ai peur. »
Jeanne frissonna.
« Peur, mignonne ? » balbutia-t-elle. « Peur de quoi ? »
« Depuis ce matin, depuis cette visite de mademoiselle Armand, j'ai des pressentiments funestes. »
« Laissez vos pressentiments de côté, ma chérie. On se tracasse l'esprit de choses qui n'ont point de raison d'être. On se fait du mal à propos de rien. Il faut se distraire. Si vous voulez, je dînerai avec vous ce soir. C'est une bonne pensée, cela, maman Lison.
Je vais aller aux provisions et préparer tout ce qu'il nous faudra.
C'est ça. Pendant ce temps, moi, je continuerai mon travail.
Et pas de pensée noire, au moins.
Je vous le promets. À la bonne heure. »
Jeanne embrassa de nouveau sa fille et sortit pour aller aux provisions en se disant « Pauvre chère mignonne, quand elle connaîtra la vérité, comme elle va souffrir. » Lorsque le fiacre de Lucien se fut arrêté en face de l'hôtel de la rue Murillo, le jeune homme descendit et, après un instant d'hésitation, ou plutôt de combat contre lui-même, il prit son parti et sonna. La porte s'ouvrit. Lucien entra. « Mademoiselle Armand est-elle à l'hôtel ? » demanda-t-il au concierge. «
Oui, monsieur Labroux, et elle est seule. Monsieur Armand n'est en point encore rentré.
Puis-je voir mademoiselle ? » ?»«
Je le pense. Je vais sonner monsieur Théodore, qui annoncera la visite de monsieur Labroux à mademoiselle. »
Le concierge fit résonner un timbre et le valet de chambre parut sur la plus haute marche du perron au moment où Lucien traversait la cour.
« Je désirerais parler à mademoiselle Armand, » lui dit le nouveau venu.
« Mademoiselle est au salon, » répliqua le valet. « Elle a vu monsieur entrer dans la cour. Elle recevra monsieur.
Monsieur veut-il me suivre ?»
Lucien gravit les degrés. Mary, debout et adossée à la cheminée du petit salon, attendait. Le seul aspect du visage décomposé du jeune homme lui fit comprendre que le visiteur se trouvait sous le coup d'une violente émotion. À quelle cause attribuer cette émotion ? La fille de Paul Armand ne pouvait le deviner. Elle sentit un frisson courir sur sa chair, mais elle parvint à dissimuler son trouble.
« Mon père n'est point encore arrivé, monsieur Lucien, » fit-elle. « C'est très aimable à vous d'avoir pris les devants. Soyez le bienvenu. Asseyez-vous et causons. »
En même temps, elle désignait de la main un siège.
Lucien s'inclina.
« Mais comme vous êtes pâle, » continua vivement Mary, « que se passe-t-il donc? Souffrez-vous ?»«
Oui, mademoiselle, » répondit Lucien d'une voix brisée. « J'ai beaucoup souffert, et je souffre encore. »«
Mais pourquoi ?
Avez-vous eu avec mon père quelques discussions ? Quelque entretien orageux ?
Mon père est bon, le meilleur des hommes, mais parfois un peu violent. »
Le fils de Jules Labroux interrompit Mary. « J'ai eu, en effet, avec monsieur votre père un entretien pénible, » dit-il, « et c'est de cet entretien que vient ma souffrance. »«
Je ne comprends pas. »
« Écoutez-moi, mademoiselle, et vous comprendrez. Nous sommes arrivés à un moment décisif. Il faut entre nous une situation nette. Nous n'y pouvons arriver que par la franchise. Une franchise brutale au besoin. » En entendant ce préambule, Mary devint livide. L'angoisse la prit à la gorge et ne lui permit pas d'articuler un mot. Elle exprima son adhésion par un signe de tête. Lucien poursuivit. Le hasard, ou pour mieux dire et pour dire vrai, le besoin de travail m'a conduit un jour près de vous.
Regrettez-vous ce jour ? Demanda Mary d'une voix éteinte.
Oui, mademoiselle, car il a causé et il causera bien des souffrances. Ce jour-là, vous avez été pour moi affectueux, bonne, affectueuse, compatissante, et en vous jurant une reconnaissance éternelle, Dieu m'est témoin que je ne mentais pas. En appuyant auprès de votre père la supplique de mon ami Georges Darrier, en me faisant obtenir dans l'usine une position au-dessus de mes espérances, vous assuriez mon avenir.
Eh bien, alors, laissez-moi continuer, je vous en prie.
Et pardonnez-moi si les expressions que je vais être forcée d'employer sont parfois et bien malgré moi trop franches. Il est de mon devoir de tout dire. On n'est pas maître de son cœur. J'eus l'honneur insigne d'être remarqué par vous et de vous inspirer un sentiment de bienveillance qu'assurément je ne méritais pas, que je n'attendais pas, que je n'espérais pas.
« Ah !» s'écria violemment Mary, « je comprends maintenant pourquoi vous avez devancé l'heure, pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous me parlez avec cette froideur glaciale qui me pénètre et qui m'épouvante. Vous venez me dire que vous ne m'aimez pas, que vous ne m'aimerez jamais. »
Sans répondre à cette interruption, Lucien reprit. « Le sentiment que vous éprouviez pour moi, je l'éprouvais pour une autre.
J'aimais. »
« Oui, vous aimiez, » dit la fille de Paul Armand avec amertume.
« Et vous aimez encore ? »
Et l'espoir entrevu par moi d'unir mon existence à la vôtre n'était qu'un rêve, qu'un espoir menteur.
« Vous et votre père, mademoiselle, » poursuivit Lucien, « avez fait tout ce qui dépendait de vous pour anéantir cet amour dont mon cœur était plein.
Je constate cela, mais sans vous le reprocher. Votre intérêt personnel vous guidait, mademoiselle, et M. Armand obéissait à sa tendresse paternelle. J'ai pris le seul parti qui fût honorable et loyal. Je me suis tenue à l'écart le plus possible, évitant toutes les occasions de me rapprocher de vous. Je vous ai fait souffrir, je le sais, et je le déplore, mais il serait injuste de m'en vouloir. J'aimais. Or, vous le savez aussi bien que moi, l'amour est un maître exigeant. Quand il ordonne, il faut obéir.
Et aujourd'hui, vous venez m'apprendre qu'il n'existe plus pour moi d'espérance, n'est-ce pas ?
Demanda Mary.
Est-ce ma faute à moi ? Cependant, si je vous ai aimé ? Vous le disiez il n'y a qu'un instant, on n'est point maître de son cœur. Pouvais-je être maîtresse du mien ? Pouvais-je deviner que vous en aimiez une autre, qu'une autre vous aimait ?
Dans le sentiment inspiré par vous, je mettais toute ma vie. Toute ma vie, entendez-vous ? Aujourd'hui, mon amour fait partie de moi-même. Je ne peux plus le chasser. Si c'est un crime, Lucien, pardonnez-le-moi. Contre votre amour, je ne puis rien. Je ne tenterai rien désormais, me sachant vaincu d'avance. Mais qui connaît les secrets de l'avenir ? Laissez-moi espérer. Laissez-moi vivre. Je vous en prie. Je vous le demande à genoux.
Et Mary s'agenouilla véritablement devant Lucien, l'implorant, le suppliant, fiévreuse, haletante, ses mains en feu pressant les mains froides du jeune homme. En même temps, elle balbutiait. « L'amour, c'est la folie. Eh bien, oui, je suis folle. On n'en veut pas aux fous. Tout leur est pardonné. Je suis trop jeune pour mourir. Je veux vivre. Je vivrai si vous me dites que plus tard, peut-être, vous viendrez à moi, vous m'aimerez un peu. C'est improbable, soit. Mais pourtant, c'est possible. Un jour, qui sait ? Vous n'aimerez plus celle qui prend votre cœur aujourd'hui.
Dès aujourd'hui, je ne dois plus, je ne puis plus l'aimer, murmura Lucien avec un soupir.
Mary se releva d'un bond. Une expression de farouche triomphe rayonnait sur ses traits pâlis.
Qu'avez-vous dit ? S'écria-t-elle. Vous ne devez plus, vous ne pouvez plus l'aimer ?
Non, répondit Lucien d'une voix sourde.
Que se passe-t-il donc ?
Ou bien, d'accord avec mon père, vous me trompez par un sentiment de compassion ?
Ou bien cette rivale maudite est devenue indigne de vous ? Est-ce cela ?
C'est cela.
Vous ne mentez pas ?
Non, je le jure.
Mais qu'est-elle donc ? Qu'a-t-elle donc fait, cette misérable fille, pour laquelle j'ai tant souffert, j'ai tant pleuré, dans mes longues nuits d'insomnie ?
Ah, gardez-vous de l'insulter. Lucie est honnête fille entre les plus honnêtes.
Elle est pure, comme les anges.
Vous prétendez ne l'aimer plus et vous la défendez en ces termes ? S'écria Mary palpitante.
Je dois arracher de mon cœur l'amour qui le remplissait.
Mensonge. Non, mademoiselle, vérité terrible. Je n'ai pas le droit d'aimer la fille de l'assassin de mon père.
Quoi ? Lucie ?
Lucie est la fille de Jeanne Fortier, condamnée en cour d'assises pour avoir tué mon père.
Est-ce possible ?
Fit mademoiselle Armand d'un ton presque farouche.
N'inventez-vous point cette fable pour me permettre d'espérer qu'un jour vous pourrez venir à moi ?
S'il vous faut des preuves, mademoiselle, en voilà une indiscutable.
Et Lucien tendait à Mary le procès-verbal de l'hospice des enfants trouvés. La fille du millionnaire le prit et le lut avidement.
« Ah, je suis vengée !» dit-elle ensuite au comble de la joie.
Cette joie serra le cœur de Lucien.
« Non, poursuivit Mary, non, vous ne pouvez aimer cette fille. Vous devez la haïr.
Ah, c'est Dieu qui a voulu vous rapprocher de moi en vous ouvrant les yeux sur l'indignité de celle que vous croyez aimer.
Dieu me protège, visiblement. Je pourrai vivre désormais. Je vivrai, car j'ai l'espérance. »
Lucien avait repris le fatal papier. « Écoutez-moi encore, mademoiselle, » fit-il. « Je ne vous ai point dit tout ce que j'avais à vous dire. »
« Non, je ne hais pas Lucie, car l'enfant ne peut être rendu responsable des fautes de la mère. Mais l'honneur me commande de l'oublier. Je m'efforcerai, comme c'est mon devoir, de n'aimer plus la fille de Jeanne Fortier. Mais le déchirement est douloureux, la blessure est profonde et saignante. Il faut laisser au temps le soin de la cicatriser. Voici donc ce que je viens vous demander, jusqu'à ce que la guérison soit complète. »
Mary, haletante, les yeux rivés sur son interlocuteur, écoutait.
« Vous refuseriez de me croire si j'affirmais ne point souffrir, » poursuivit le fils de Jules Labroux. « Je souffre beaucoup, mais je lutte contre ma souffrance. Je veux l'oubli, je l'obtiendrai. Quand l'oubli sera venu, mon cœur sera libre. Sans doute alors la respectueuse affection, la profonde reconnaissance que vous m'inspirez se changeront en un sentiment plus tendre. Mais jusque-là, laissez-moi m'isoler dans ma douleur. Ne demandez ni un battement à mon cœur, ni un sourire à mes lèvres. Je ne pourrai les leur imposer. Contentez-vous d'une espérance, et vivez pour votre père qui vous aime. Me le promettez-vous ?
C'est presque le renoncement que vous me demandez là, répondit Mary, dont les larmes se mirent à couler.
La douleur tue. J'en sais quelque chose. Que deviendrais-je si vous succombez à la vôtre ?
Ne craignez point cela. Je vivrai, je vous le jure, car ma tâche en ce monde n'est pas finie. Je vivrai, et je vous le répète, la guérison viendra.
L'espérez-vous véritablement ?
Foi d'honnête homme, je l'espère.
Eh bien, que votre volonté s'accomplisse, murmura tristement Mary.
J'attendrai. J'essaierai d'attendre.
Lucien fut ému de la façon dont la jeune fille prononça ces mots. « La pauvre enfant va s'éteindre, » pensa-t-il en la regardant. « Mais je ne peux faire l'impossible. » En ce moment, entrait Paul Armand. Il lui suffit d'un regard pour comprendre ce qui s'était passé. Mary essuyait ses yeux rougis. Donc, elle avait pleuré. Lucien était grave et très pâle. Évidemment, il venait de demander un sursis à la jeune fille et de l'obtenir.
« Vous causiez, mes enfants ?» dit-il en embrassant sa fille.
« Oui, père, » répondit-elle.
« Et le sujet de l'entretien ?»
Lucien intervint.
« Celui que vous devinez, monsieur, » dit-il.
« Qu'avez-vous résolu tous deux ?»«
D'attendre, »
balbutia Mary d'une voix étranglée. Le grand industriel ne put réprimer un geste de colère. La jeune fille vit ce geste et s'empressa d'ajouter, en contenant ses sanglots.
« Père, j'attendrai, avec patience. Les raisons de M. Lucien sont dignes, honorables pour lui, et prouvent la droiture de son âme.
Je ferai, monsieur, tout ce qui dépendra de moi pour assurer votre bonheur, dit Lucien. Il n'y a là qu'une question de temps. » Mary, dont les larmes s'étaient remises à couler, cacha son visage entre les bras de son père. Paul Armand jeta sur Lucien un regard d'une expression navrante. Ce regard signifiait clairement « Pour attendre, il faut vivre, et vous la tuez. » La jeune fille avait relevé la tête. Elle surprit et comprit ce regard.
« Ne crains rien, père, » dit-elle. « Je vivrai, je te le promets. Je vivrai pour vous aimer tous deux. Monsieur Lucien a raison. Il ne peut m'apporter un cœur rempli d'une autre. Il faut laisser ses blessures saignantes se cicatriser. Père, j'ai confiance en Monsieur Lucien. Qu'il s'isole dans sa douleur, qu'il s'éloigne de moi, peu importe. Je sais qu'un jour il reviendra. C'est tout ce qu'il me faut. Il reviendra, car il se sait aimé ici, et l'amour attire. »
En disant ce qui précède, elle tendit ses deux mains à Lucien, qui, remué profondément par la voix de la pauvre enfant malade, les prit et les porta à ses lèvres. Sous ce léger contact, Mary devint pâle comme une morte, et retirant ses mains, elle les appuya sur son cœur, dont les battements lui semblaient près de briser sa poitrine. Le valet de chambre vint prévenir que le dîner était servi. Le front si sombre de Paul Armand s'était quelque peu éclairci. « La fille de Jeanne Fortier n'existe plus pour lui, » pensait le millionnaire. « Donc, le danger qui me menaçait de ce côté s'évanouit. Peu à peu, ses souffrances se calmeront, et quand il sera mon gendre, j'aurai sauvé ma fille, et je me serai sauvé moi-même. » Ovide Solivo, depuis son dernier entretien avec Paul Armand, n'avait point donné à ce dernier signe de vie. Lui aussi songeait à se garer dans l'avenir de toute éventualité fâcheuse. Certaines paroles prononcées par Mademoiselle Amanda éveillaient ses soupçons et faisaient naître en lui des inquiétudes bien fondées. Amanda en avait trop dit et n'en avait pas dit assez. À cette heure, il se défiait d'elle et voulait savoir jusqu'où allait sa perspicacité. N'était-elle hantée que par de vagues soupçons? Devinait-elle au contraire en lui l'acheteur du couteau vendu par le coutelier du Quai Bourbon pour frapper Lucie et retrouver brisé sur le théâtre du crime? Il importait de savoir d'une façon positive à quoi s'en tenir à ce sujet et si Mademoiselle Amanda avait une certitude de prendre des mesures efficaces pour se garantir. Malgré l'arme qu'Ovide possédait contre elle, la jeune femme pouvait le perdre d'un mot. Il ne fallait point qu'elle prononçât ce mot. L'essayeuse paraissait convaincue que son protecteur se nommait véritablement le baron Arnold de Reiss, mais Solivo avait cru lire dans les regards de la jolie fille qu'elle chercherait à connaître la demeure de ce baron qui, sous des prétextes en l'air, refusait obstinément de donner son adresse. Or, d'un moment à l'autre, elle pouvait arriver à ses fins malgré le mystère dont s'entourait Ovide. Depuis le jour où nous l'avons entendu lui raconter son voyage à Joigny et les résultats de ce voyage, il n'avait pas cessé de la voir, dînant avec elle chaque jour et nourrissant un projet qu'il comptait mettre à exécution le plus tôt possible. De son côté, Mademoiselle Amanda ne se méfiait pas moins de son adorateur platonique. Elle voulait savoir quel était cet homme qui la tenait d'une manière absolue dans sa dépendance, grâce à la déclaration, écrite et signée de sa main, qu'il possédait. Mais le temps lui manquait pour faire les démarches d'où devait résulter la preuve que le pseudo Arnold de Reiss n'était qu'un simple et vulgaire assassin. À maintes reprises, elle avait essayé de le suivre. Ovide s'était fait un jeu de déjouer ses ruses un peu naïves. Amanda ne lui pardonnait point d'avoir barre sur elle. Elle dissimulait sa rancune parce qu'elle ne pouvait faire autrement, mais elle aurait été heureuse de pouvoir lui dire « Je suis la plus forte. Vous me teniez. Maintenant je vous tiens. Dénoncée par vous, qu'est-ce que je risque? Quelques mois de prison ? Au maximum, si le jury se montre sévère. Tandis que vous, c'est bien autre chose. Je puis vous envoyer au bagne, sinon à l'échafaud. Oui, mon cher, parfaitement bien. » Ah, comme elle aurait été heureuse, la séduisante coquine, de pouvoir parler ainsi. Mais hélas, il lui fallait se taire, car elle ne savait rien. Soupçonnant beaucoup, elle ne pouvait rien prouver. Cependant, elle patientait, comptant bien un jour ou l'autre
trouver quelques preuves et s'en servir pour prendre sa revanche, dominer à son tour le vrai ou faux Arnold Reis, et grâce à cette domination, l'exploiter et s'enrichir.
Cet homme puise sans doute dans le crime la fortune qu'il paraît avoir, pensait Mademoiselle Amanda.
Cela m'est égal, pourvu que j'obtienne de lui tout ou partie de cette fortune.